Bienvenue dans ce nouvel opus de Je le pose ici. Alors, je vous avais promis que la diffusion serait irrégulière et je vous avais promis que ce serait varié. Eh bien, on va essayer de tenir les promesses. Ça va être irrégulier, quoique sur un deuxième épisode, vous ne risquez pas trop de jauger la régularité. Mais bon, la variété, on va essayer. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter un entretien que j'ai eu récemment avec une de mes amies, Jeanne-Françoise, qui revenait tout juste d'un voyage en Afrique. Et elle nous relate ici les différents séjours qu'elle y a fait dans différents pays, comme voyageuse pour aller marcher et chanter dans le désert, et comme bénévole pour une association qui vient en aide aux handicapés de la vue au Burkina Faso. Alors, pour moi, Jeanne-Françoise, c'est un exemple extrêmement inspirant. Depuis toujours, que ce soit dans sa carrière professionnelle ou associative, et dans son quotidien aussi, elle montre le chemin avec enthousiasme, avec le sourire, avec sa volonté de dépasser les bornes, de trouver des solutions au handicap visuel, qu'elles soient hyper simples, basiques, mais aussi qu'elles soient hyper technologiques. Elle nous dessine alors un monde où les relations sont simples et où on peut tout aussi facilement avoir la fierté de se débrouiller tout seul, sans le support de la vue, mais tout aussi facilement aussi pouvoir dire « prête-moi donc un peu tes yeux un instant, ça sera plus pratique, comme ça, la cool, sans embâge ». Alors voilà, fermez les yeux, bouclez votre ceinture, l'avion va décoller. On va traverser la Méditerranée, marcher dans les dunes, rencontrer des dromadaires, cuire le pain à même le sol. Faites attention aux coups de soleil, on va en Mauritanie, en Tunisie et au Burkina Faso. Comment vas-tu ?
Ça va bien et toi ?
Ça va.
Pas trop chaud ?
Si, il fait chaud.
Ah, très chaud.
Oui, il fait chaud.
Je peux t'offrir un verre d'eau ?
Avec plaisir.
La toute première fois que j'ai été au désert, c'était en l'an 2001, entre Noël et Nouvel An. C'était une amie qui devait partir avec une autre amie qui, en dernière minute, est tombée malade et n'a pas pu venir. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais la remplacer.
La remplacer. C'était dans quel désert ?
Et là, c'était dans le désert de Mauritanie.
Mauritanie, d'accord.
Le désert de sable,
oui.
Près de Shingeti. Jamais vécu une expérience comme ça, oui, Jacques, d'accord. Et j'ai adoré parce que, enfin, moi j'aime bien les ambiances calmes.
Oui.
Et là, c'était vraiment un séjour où on ne faisait que de la marche. Mais en même temps, c'était de la marche dans le désert, quoi.
C'était un grand groupe ?
Non, finalement, on n'était que 5 ou 6. Il y avait un autre couple de Français. Je ne sais plus, parce qu'il y a déjà longtemps. Mais, et mon ami et moi, on était 2. Et il y avait encore une autre personne, je ne sais plus. On n'était que 5 avec les chameliers et le guide.
D'accord. Donc c'était essentiellement marche. Les chameaux étaient là pour transporter le matériel, l'équipement.
Et donc, et cette fois-là, on a marché. Et je dormais sous tente avec mon ami. Et c'est là que j'ai découvert que les chameliers faisaient le pain dans le sable.
Ah oui, bien sûr, oui, c'est toute la,
oui,
c'est toute la tradition
oui,
qui va avec.
Oui. Mais j'avais gardé un tellement bon souvenir de ce séjour et je m'étais dit, si j'ai encore l'occasion de le faire, je le referai.
Je retournerai.
Et voilà que je fais aussi du tandem, là. Et un soir, j'étais en tandem avec une dame qui me raconte qu'elle habite en province, mais elle vient très régulièrement à Bruxelles pour son travail. Et elle me raconte qu'elle fait partie d'une petite chorale chez une dame, chorale féminine. Et puis elle me dit, et je vais partir dans quelques jours dans le désert avec cette dame, parce qu'elle fait des séjours pour chanter et marcher.
Chanter dans le désert.
Oui, parce que c'est une dame qui est musicienne, elle est chanteuse, musicienne, et elle organise des petites chorales chez elle et tout, enfin voilà. C'est une dame assez... Elle organise, quoi. Mm-hmm. Et finalement, j'apprends qu'elle organise toutes les années, elle organise ce séjour dans le désert.
En Mauritanie aussi ?
Non, c'est dans le sud de la Tunisie.
Sud de la Tunisie,
par Djerba.
Ok.
En fait, on prend l'avion jusqu'à Djerba et puis là, on prend le 4x4 et on va vers le désert. C'est à l'ouest de Djerba, d'accord. Sud-ouest, je veux dire. Au-delà de 12, il y a la ville de 12. Voilà.
Et du coup, oui, vas-y, continue.
Non, et alors, je dis à cette dame avec qui je roulais, je dis, tu crois qu'elle accepterait une dame non-voyante? Parce qu'évidemment, il faut toujours poser la question. Elle dit, oh, mais oui, parce qu'il y a déjà une autre dame qui est venue avec et ça se passe très bien. Et comme elle faisait un petit concert, je dis, ben, je viens à ton concert et je vais rencontrer la dame.
Rentrer, oui, bien sûr. Oui.
Et je vais lui demander. Et elle m'a dit, mais oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et alors, cette année-là, moi, je ne pouvais pas y aller. Mais l'année suivante, quand elle a envoyé les informations, et donc c'était en 2011 ou 2012, je ne sais plus. Et je dis, ben, je vais m'inscrire. Mais oui, mais je ne connaissais personne, donc vraiment, c'était audacieux de ma part, parce que partir dans le désert, je suis tout à fait dépendante du groupe. Mais si cette dame me dit « je peux venir », je me disais qu'elle connaît un peu le style de personnes qui viennent et qu'il n'y aura pas de souci, quoi. Et donc, j'ai été à la première réunion préparatoire au voyage, et je ne connaissais en effet personne. Oui. Et alors, je dis, voilà, je suis non-voyante et j'ai envie de renouveler cette expérience que j'ai vécue il y a une dizaine d'années et tout ça. Et puis, je dis, mais voilà, évidemment, je n'aurai aucun repère là puisqu'on va bouger tous les jours et le désert, c'est le désert.
Oui.
Et alors, tout de suite, il y a quelqu'un qui m'a dit, on ne t'en fait pas, tu sais, on va t'aider, il n'y a pas de souci.
C'est chouette.
Et
chouette
alors, et en effet, donc je suis partie avec ce petit groupe, et je dois dire que voilà, les journées se passaient. On se lève le matin, on se met un petit peu en forme avant le petit déjeuner, en faisant des petits exercices de respiration, d'échauffement et tout ça. Et puis on fait le petit déjeuner, et puis on chante pendant une petite heure, et puis on part marcher pendant trois heures, quelque chose comme ça. Et alors, on arrive déjà au camp suivant.
Oui, donc c'est itinérant.
C'est itinérant. À l'autre. Mais en fait, nous, on n'a qu'à s'occuper de notre petit barda. Hein, oui. Tout le reste, c'est les chameliers qui font tout.
Qui s'occupent de ça.
Et puis alors, l'après-midi, il y a le petit repas du midi. Et puis, on fait un peu la sieste. Et puis, à 4 heures, on se retrouve et on chante. Et on apprend des chants et tout ça jusqu'au souper. Et puis, on fait le souper autour du feu avec les chameliers. Et puis, le soir... On reste autour du feu et voilà.
Oui,
voilà.
C'est une ambiance sympathique. Alors, du coup, quelle perception tu as de la Mauritanie par rapport au désert tunisien, sans l'appui de la vue?
Eh bien, c'était un peu les mêmes sensations parce que c'est deux déserts de sable.
Oui.
En tout cas, la Mauritanie, c'est pas tout du sable, mais là, celui où on est allé, c'était un désert de sable, donc c'est des dunes et... Et bon, et tu grimpes sur les dunes, tu redescends, et c'est assez fatigant parce que le sable est assez mou, quoi. Mais c'est très gai. Au début, j'ai marché un peu à pieds nus, mais quand même, pour moi, c'est un peu juste parce que de temps en temps, il y a quand même une pierre.
Oui, c'est ça.
Donc, je mets pas ce genre de sandales que j'ai aux pieds, mais des sandales de marche, quoi.
D'accord.
Et c'est mieux que des bottines parce que le sable, mais il sort aussi vite,
mal,
quoi. Et donc, les sensations étaient un peu les mêmes. C'est très silencieux. C'est un peu comme moi, je compare ça aussi au paysage de la neige, tu sais.
Oui, quand les sons sont absorbés.
Oui, voilà, c'est très feutré, comme ça, et... Bon, la neige, évidemment, il y a de la verdure, il y a des arbres et tout ça, tandis que dans le désert de Mauritanie, oui, il y avait quand même quelques arbres, des cases d'acacia.
Oui.
Les chameaux sont assez friands des acacias.
Le vent doit siffler de manière particulière dans les acacias.
Oui. Et alors, dans le désert de Shingeti, de Mauritanie, c'est peut-être plus varié dans le sens où moi, j'ai quand même découvert qu'il y avait plein de pierres et des ossements et des choses comme ça, parce que c'était sans doute une civilisation très ancienne qui a vécu là-dedans.
Oui.
Et donc, c'était peut-être plus varié. Il y avait des sols différents, il y avait des endroits où il y avait une espèce de sel comme ça. Enfin, c'est assez curieux. Voilà.
Et au niveau des odeurs ?
Et au niveau des odeurs... je dirais qu'en Tunisie, ici, au mois de mars, on est quand même toujours au bord du désert.
Oui.
Donc, le soir, on est toujours près des arbustes, parce que pour les chameaux, c'est plus facile. Ils broutent et tout ça. Et c'était déjà bien le printemps, là. Et donc, il y a quand même des fleurs qui parfument.
D'accord, on commence à avoir une parfum.
Et alors, il y a quelques oiseaux, mais très peu. Mais quand même, il y a un jour où on marchait, j'ai l'impression d'être comme sur la dune à la mer. Des fleurs qui parfument, des oiseaux là, qui nous suivaient. Et je me dis, mais j'ai l'impression d'être sur une dune le long de la côte. Quoi.
Donc tu arrives bien à te représenter le paysage en fonction du sol, de l'odeur, du bruit
J'essaye de me représenter. Tu sais, je pense que ce n'est pas la réalité, mais je sens déjà la configuration du sol, monter, descendre, tourner à gauche, à droite. De temps en temps, il y avait des cailloux aussi, des petits arbustes, de l'herbe et tout ça. Et donc ça, oui, je sais. J'apprécie avec les autres sens, avec l'ouïe, les sensations aux pieds. Et puis de temps en temps, on me faisait toucher ici et là.
Ah voilà, c'est ça, oui. Il y a l'équipe, le groupe qui est là aussi pour te faire ressentir.
Mais ce que j'ai fait en plus en Mauritanie, j'ai dormi sous tente, mais ici, dans le désert de Tunisie, j'ai dit non, je dors à la belle étoile.
À la belle étoile, le froid de la nuit.
Et là, la nuit était très froide.
Oui.
Et il y a une seule fois où j'ai dormi sous tente parce que le soir, il y avait pas mal de vent. J'ai bof, le vent qui souffle, c'est un sable très très fin, comme de la poussière,
partout,
c'est une vraie poudre.
Ouais.
Et donc ce sable se soulève, et je me dis, mon Dieu, la nuit, ça ne va pas être agréable.
Ouais.
Et donc j'ai dormi une fois sous tente, j'avais l'impression de suffoquer.
Ah oui, parce que tu n'as pas l'air, normal, bien sûr.
L'ami avec qui je dormais la nuit, elle dormait aussi à la belle étoile, elle dit, mais pour toi, c'est pareil. Si tu dors sous tente, tu ne vois quand même pas les étoiles. Je me suis, je sens quand même le bon air. C'est quand même une sensation d'espace, quoi, malgré tout. Quoi. Et puis, c'est vrai qu'il faisait plus frais.
Auditivement, c'est tout à fait différent aussi. Il n'y a pas la tente qui feutre un petit peu, qui filtre.
Ah oui, non, c'est vrai que c'est très différent. C'était peut-être plus agréable parce que moins froid, mais j'aimais mieux l'expérience de dormir.
Moi, je suis allé dans le désert en Afrique de l'Ouest, du côté de Djibouti. Donc j'ai fait pas mal de sorties, parce que j'ai habité pendant quelques mois là-bas.
Ah oui.
Et donc j'ai eu l'occasion d'aller dans le désert, et c'est vrai que d'y dormir aussi, d'y passer des bivouacs.
C'est génial.
Et c'est une sensation assez impressionnante de à la fois ce calme, mais en réalité, il y a une vie, il y a une vraie vie.
Ah oui, parce que d'ailleurs, un soir, ils ont dit, mais attendez, ne mettez pas votre matelas dans un creux, parce que là, il peut y avoir des scorpions, des bêtes. C'est pas que les scorpions soient très dangereux, mais ils peuvent quand même
piquer.
Faut
pas les déranger,
Donc, ils venaient vérifier, voir où on avait bien mis notre matelas. Parce qu'on avait quand même tout le confort. Je dois dire qu'on n'était pas sans rien. On avait des galettes de mousse là, comme matelas.
Oui.
Mmh. Et puis on avait amené soi-même son sac de couchage. On avait des couvertures aussi. Et puis ils font tout pour nous. Ça, c'était génial. Le petit déjeuner, on se lève, le feu était déjà bien en train. Et ils font le pain le matin, là, ils pétrissent. Et puis c'est des galettes, quoi.
C'est assez
plat. Mais on m'a bien expliqué comment on faisait le pain. Et donc, ils font le feu et ils attendent qu'ils aient un peu de braise. Alors, ils prennent, avec une pince, ils prennent les braises, ils les déposent sur le sable pour chauffer le sable.
Oui.
Et puis, ils pétrissent le pain. Puis, ils enlèvent les braises. Le sable est tout chaud. Ils mettent la pâte pétri.
Directement au sable.
Sur le sable. Ouais. Et au-dessus, ils mettent les braises. Et d'accord. Puis une demi-heure, une bonne demi-heure, et le pain est cuit. Oh, alors que ça, ils secouent, ils tapent pour enlever
pour retirer le sable, tout. Et puis les braises, oui, évidemment.
Et on a un délicieux pain doré, tout évidemment, chaud. Ouais, c'est vraiment extra. Ça, pour moi, je trouve toujours que c'est un miracle. Et le midi, ils nous font des salades. Je ne sais pas comment ils font. On m'a expliqué qu'en fait, ils doivent mettre dans des boîtes et tout ça. Et alors, ils doivent entourer de tissus mouillés.
Mouillés pour rester au frais. Ouais.
Pour que ça reste au frais, ouais. C'est ça. Oh, c'est incroyable. Et alors, les chameaux, ils sont chargés. On m'a fait toucher. Hein. C'est énorme. Ouais. Alors, on m'a dit que le chameau... Il pouvait porter jusqu'à 250 kilos.
Oh là, oui. Oui.
Et donc, on était un groupe de 12 personnes et il y avait 10 chameaux. Hein.
Donc, pratiquement un chameau par personne.
Hein. Deux, presque un chameau par personne, mais il y en a deux qui restent plus ou moins libres pour porter les gens qui ne veulent pas
s'il
marcher.
S'il y a un problème, oui.
Oui, c'est ça. Et donc, et les autres sont chargés de tous les matelas, la vaisselle,
la nourriture,
l'eau. Mais l'eau, c'est très lourd. Hein.
Oui.
Et il y a même eu un chameau qui a eu un problème à un moment donné. On passait une dune. Et il s'est enfoncé dans le sable, il n'arrivait plus à en sortir. Voilà, on a dû tout à fait le décharger, le sortir et puis le recharger.
Enfin, ça peut vite prendre quelques heures.
Ah oui, ça prend vite des heures, ça c'est sûr.
Mais bon, en même temps, il n'y a pas de point de rendez-vous particulier au moment où vous faites le bivouac. Il y a un rythme à tenir.
Ah mais... oui, mais ça, ils nous gardent toujours à vue. Hein.
Oui.
Tu sais, les chameliers sont devant nous, ils nous tracent le chemin, ils nous montrent par où aller. Et il y a toujours le guide,
quelqu'un
on va
qui
dire,
surveille,
qui surveille, qui est plus ou moins derrière et qui tient tout le monde à l'œil parce qu'on serait vite perdu. Hein.
Oui, il suffirait de louper une dune et,
oui,
et de prendre un
bifurcation. Je me rappelle la première fois que j'y étais, c'était en 2011-2012, il y a une dame qui a voulu se retirer derrière une dune parce que bon, voilà. Et puis, elle ne nous a plus vus, elle nous a perdus.
Ah oui, elle ne retrouvait pas le...
Ah oui, elle ne savait pas par où on était passé. Et donc... mais bon, finalement, elle est restée sur place. C'était la meilleure façon de faire. Parce
les autres ont retrouvé les traces.
Et le guide l'a retrouvée. Mmh. Allez, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Quoi, mmh. Mais ça va vite.
Ah, hein. Oui, bien sûr.
Ça
oui,
va
oui,
très
oui,
vite. Quand on avance.
Ouais. Ça ne paraît pas. Hein.
Non, ça ne paraît pas. Mmh. Non, ça, ils sont très, très attentifs.
Et donc, tu es tombée amoureuse du désert.
Ah, moi, je suis amoureuse du désert et j'ai encore envie d'y retourner. Mais c'est un peu fatigant malgré tout, hein, parce que, bon...
Ça dure combien de temps
Une semaine.
Une semaine.
Une semaine, oui.
Et tu te prépares avant d'y aller? Tu fais du sport de toute façon, d'une manière régulière avec le tandem.
Oui, je fais un peu de marche. Ça, j'essaye d'en faire, mais je n'en avais pas fait spécialement pour me préparer. Et je fais du tandem pendant la bonne saison, maintenant.
Oui.
Je vais commencer parce que ça a déjà commencé, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de faire du tandem. Je me suis
inscrite. Le jour commence tout juste à arriver.
La semaine prochaine, je vais en faire un.
D'accord.
Ouais. Ah, oui.
Donc voilà. Ça a été ton deuxième séjour. Et donc, tu en as fait d'autres ou...
Et alors, donc j'ai fait un séjour en Mauritanie et trois fois déjà avec cette dame.
D'accord.
En 2012, 2015-16 et puis ici en 2018.
Et au même endroit dans
toujours
la,
dans le même
dans
désert.
La même ambiance.
Parce qu'en fait, elle connaît bien l'équipe qui organise
d'accord,
ça là-bas.
Oui.
Et ça devient des amis. Ils sont très habitués de nous guider et tout ça. Donc, c'est toujours les mêmes. Oui. Chaque fois que je suis allée, c'était les mêmes chameliers. Donc, ça, c'est
ah oui, donc tu
sympa,
finis par les connaître.
Oui,
et eux
ça.
Aussi
il y a un lien d'amitié.
Bien sûr,
qui se... Et puis, le groupe était très sympathique. Donc, ça, c'est toujours...
Et même, donc, du coup, les personnes qui participent, pour la plupart, sont les mêmes aussi
Non, pas spécialement. Il y en a qui ont déjà été, mais on ne se retrouve pas toujours au
pas
même moment.
Pas systématiquement les mêmes personnes.
Non,
oui,
non. Et donc, ici, il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas. Mais en fait, cette année-ci, c'est une amie qui m'a téléphoné pour dire « t'aurais pas envie de venir avec moi dans le désert ». Je dis « tu ne dois pas me le demander deux fois
hein. ». Oui, je veux bien croire, oui.
Et voilà. Et alors, comme j'étais partie au Burkina Faso juste après, quand je suis rentrée, j'avais déjà un mail en disant « voilà, tu es pressentie ». Je dis « quoi, elle a déjà donné mon nom ?» Non, c'était très bien. Et donc...
Voilà.
Et le Burkina Faso, c'était pour une raison tout à fait
différente. Là, je vais très régulièrement parce qu'avec une petite équipe de la région de Tournai et de Mons, on s'occupe d'une association pour les personnes aveugles et malvoyantes et d'une petite école. Régulièrement. J'y étais ici au mois de décembre, rencontrer un peu les gens parce qu'ils sont très contents. Tu sais, il y a beaucoup d'ONG qui financent les projets et tout ça. Mais nous, c'est un peu aussi par sympathie, comme ça. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça.
Ah oui, ouais. OK. Donc le Burkina Faso, tu connais bien.
Ah, je connais bien le Burkina et j'ai toujours du plaisir à y aller.
Ouais.
Donc on y retourne en janvier prochain parce que tous les deux ans, on organise ce qu'on appelle un Faso tandem, c'est-à-dire qu'on a emmené plein de tandems là-bas pour donner l'occasion aux jeunes aveugles de faire du sport.
Ah oui, bien sûr.
Et alors, ils en profitent aussi pour montrer ce que les aveugles peuvent faire. Et alors, ils vont dans différentes régions. C'est l'occasion pour eux aussi de faire connaître leur association, de faire un événement, quoi, tu vois. Auprès des personnes voyantes, auprès des autorités locales.
D'accord. Ah oui, aussi, ça. Oui, bien sûr.
Ah oui, ils en font toute une journée événement. Et donc, nous, on vient à chaque fois.
Oui, apporter votre soutien moral.
Oui, c'est ça. Et puis, oui, on apporte les sous aussi pour l'organisation de la journée et tout ça. Non, c'est sympa.
Ah, c'est chouette.
Oui, non, c'est très chouette. Non, ça, il y a un très grand lien entre le Burkina et nous. Et alors, ici, justement, dimanche, on a notre repas annuel à Tournai pour récolter un peu de sous.
D'accord.
Pour cet événement, justement.
OK. Donc, voilà. Tu connais bien l'Afrique, en tout cas la partie nord de l'Afrique.
En tout cas, le Burkina, je connais bien. J'ai été une fois au Sénégal et j'ai été une fois au Bénin aussi, mais il y a très, très longtemps, le Bénin. Mais l'Afrique, j'aime beaucoup. Oui. Je suis très attirée par l'Afrique. Je sais pas, j'aime bien les gens. Je n'ai jamais été au Congo. Ça. Et j'ai été une fois au Kenya parce que j'ai une de mes sœurs qui a vécu là pendant 6 ans, son mari... à travailler pour la GCD ici en Belgique, pour la construction de barrages, etc. Et donc j'ai été au Kenya, mais c'était un peu différent parce que je logeais chez ma sœur.
Oui, oui.
Et là, le Kenya, c'est plutôt les safaris. Mm-hmm. Enfin, on a été à la côte quand même, à Mombasa. Oui. Et voilà, non, c'est chouette.
Et comment tu te fais des souvenirs ?
Écoute, j'oublie beaucoup.
Oui.
J'oublie beaucoup parce que je n'ai pas la photo, pour se fixer un peu la mémoire et tout ça. Mais voilà, j'ai des souvenirs d'événements, d'ambiances vécues et tout ça. Je sais pas. Mes souvenirs, c'est surtout des expériences.
Ce sont des souvenirs de vécus. Donc, tu ancres.
Oui,
et
c'est
puis,
ça.
Et puis le fait d'y
retourner.
Et surtout
les aventures. Les aventures, ça, alors.
Ah, ça, forcément, ça marque. Oui,
ça marque. Ça marque. La vie est quand même, c'est un pays très, très pauvre. C'est un des pays les plus pauvres de l'Afrique, le Burkina, parce qu'il est enclavé, il n'a pas d'accès à la mer.
Oui, oui.
Et les 2/3 de la superficie, c'est du Sahel, quoi. C'est très sec, très, très sec. Il y a juste le sud qui est un peu plus arrosé et où pousse la canne à sucre, le coton et les fruits. Mais... Bon, maintenant, ils font de la culture autour... Ils font des barrages, et ils font de la culture autour des barrages, mais... Bon, ça reste quand même un pays très, très pauvre. Et dès qu'il ne pleut pas, c'est quand même
un peu la famine. Ouais. Donc, vous arrivez à mettre en valeur les avantages du pays pour les habitants eux-mêmes ou comment est-ce que ça se passe?
Ben, on a essayé au niveau des aveugles, ils demandaient voilà, à les aider pour faire un projet de pompage ou de forage d'un puits d'élevage de poulets ou des choses comme ça.
Là où ils habitent
Où ils habitent, oui. Ça, on a fait beaucoup. Mais tu sais, maintenant, ça devient difficile de récolter des sous. Hein. Oui. D'abord, on prend de l'âge et ça demande beaucoup d'énergie pour récolter les sous ici. Parce que ce qu'on faisait beaucoup, c'était ramener du... Parce qu'ils font beaucoup d'artisanat là-bas, le bronze, les statues en bronze, en bois et tout ça, les beaux tissus. On amenait tout ça ici et on revendait. Mais maintenant, et puis notre petite association ne se renouvelle pas beaucoup, ce qui fait que ça devient un peu lourd, quoi.
Oui.
Alors voilà, on organise un repas, on fait ce qu'on peut, mais...
C'est peut-être le moment de...
Voilà, alors on se cantonne alors maintenant à l'école, à parrainer les enfants, ça oui. on fait une bonne partie du parrainage, et la cantine de l'école, et voilà quoi.
D'accord, c'est peut-être le moment de faire la promotion de l'association, mais des gens qui vont t'écouter.
Voilà, c'est ça aussi, on ne fait pas beaucoup.
Il y a peut-être des gens qui ont envie de participer.
En tout cas, il y a une personne dans le groupe où je suis partie, là, dans le désert. Il y en a une, elle dit, mais j'aimerais bien venir avec toi dans le désert. Et je crois qu'elle va venir et elle va nous aider peut-être, enfin, si elle a envie, oui. dans justement la publicité, parce que nous, on n'est pas très fort dans l'informatique et tout ça. Elle dit, tu as un site web? Je dis, ben non, on n'a pas de site web. Et tu sais, les gens fonctionnent beaucoup par rapport à l'informatique,
oui, bien sûr,
pour s'informer.
Pour
elle dit, ah, mais ça, je pourrais faire, parce qu'elle est très, très férue là-dedans. Donc, je me dis, bon, ben...
Oui, donc, effectivement, il peut y avoir des volontaires qui ne vont pas forcément aller faire le déplacement, mais qui peuvent aider
à
leur manière.
Mais oui, et donc...
Alors, comment s'appelle cette association?
Nous, notre petite association s'appelle ABPAM Belgique. ABPAM, c'est ABPAM, ça veut dire Association Burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants. Et eux, ils s'appellent... ABPAM là-bas au Burkina, quoi.
D'accord.
Tu vois. Et nous, on fait ABPAM Belgique avec un tiret après ABPAM, quoi. Okay. C'est rigolo parce que une de mes amies qui s'en occupe aussi, elle dit, oh, l'autre jour, il y avait ma femme de ménage qui a reçu un coup de fil et elle me dit, il y a monsieur l'ABPAM qui vous a...
Ah oui, ABPAM. Mais c'est une bonne manière de s'en souvenir.
Oui. Oui.
Très bien. Donc, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur l'association, ils peuvent nous contacter.
Ils peuvent me contacter, en tout cas.
Tout à fait.
Pour les parrainages, on est toujours content de trouver des gens qui veulent bien parrainer des enfants. Mais voilà, notre défaut, c'est qu'on n'est pas assez bien organisé pour l'information.
Et, d'accord.
Et donc, on fait ça un
donc
peu...
Donc, s'il y a des volontaires pour diffuser l'information, ça peut aussi être un bon point d'entrée pour l'association,
tout à fait
pratique et tout à fait utile aussi.
Oui,
sans forcément imaginer prendre l'avion. Et... Quoique, je présume qu'il y en a pas mal qui devraient rêver d'aller accompagner
sur place. Mais il y en a beaucoup qui viennent... Mais il y en a peu qui s'engagent après, quoi, tu vois. Ils viennent parce qu'ils s'intéressent et ça fait un petit voyage et tout ça. Mais il y en a peu qui, après, s'engagent pour... Ça arrive, hein. Il y en a eu quand même 3-4 qui continuent, quoi, et qui s'impliquent ici en Belgique. Mais voilà.
Voilà, l'appel est lancé. S'il y a des amateurs, ils sont les
bienvenus.
Hein,
oui. Oh, mais en tout cas, les Burkinabés sont... Très sympathique. Nous, ça fait 20 ans qu'on... Et ici, au mois de décembre, on y est allé pour notre plaisir, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on y va pour le tandem ou pour aller voir une association ou une autre en dehors de Ouaga, on n'a pas le temps de revoir les amis.
Oui.
Et donc là, on a vraiment dit, on fait un séjour où on ne revoit que les amis.
Oui.
Et c'était un vrai plaisir.
Oui, bien sûr.
Pour eux aussi, d'ailleurs.
Bien sûr.
Voilà.
Thank you.
Signal, go for another one. We could do a baby, you don't go be. I'm a captain.